Et tout de suite, un brin d'histoire. Chaque semaine, on voyage dans le temps grâce à Joël Berker des archives départementales du Tarn. Bonjour.
Bonjour.
On est aujourd'hui en 1643 à Castres, toujours dans la série de ces archives notariales. Archives notariales qui feront l'objet d'une exposition à partir de fin juin aux archives départementales du Tarn. Quel est le document que vous nous avez ramené aujourd'hui, Joël Berker?
Alors, nous sommes en l'étude de Pierre Bouffard en 1643, donc notaire à Castres. Et il débute ce registre de 1643 par cette formule « Notre Dieu, en qui j'ai toute bonté, fais-moi la grâce d'écrire vérité et contre les hommes me défends de leur calomnie en tout temps ».
Jusqu'à présent, on avait eu des actes notariaux qui faisaient évidemment référence non seulement au roi, également à la religion. J'ai l'impression que celui-là va plus loin encore au niveau de la religion.
Oui, tout à fait. Il y a la religion d'un côté, et puis il y a ce besoin de dire qu'il écrit, qu'il doit écrire la vérité. Donc il y a une insistance, et ce sont des formules qu'on va retrouver de temps à autre justement dans les registres notariaux. Et on peut se poser la question, pourquoi le notaire a-t-il besoin de se justifier en insistant justement en disant voilà qu'il doit écrire la vérité. Évidemment, comme derrière il y a la défense de la calomnie de la population, donc on peut supposer évidemment qu'il y a une population qui conteste évidemment le côté véritable des actes passés chez le notaire. Ouais. Donc il y a sans arrêt ce besoin de justifier cette écriture de la vérité.
Et est-ce que justement la vérité est mouvante selon les personnes qui la considèrent?
Alors cette vérité, évidemment, c'est dans ce sens, on a déjà vu que quand le notaire prend des précautions avec ses formules de son plein gré, de son bon vouloir, etc. Donc déjà là, on a une première chose justement pour éviter la contestation, puisque notamment lors des testaments, il y a des héritiers, ou du moins des personnes qui comptaient hériter et qui n'ont rien eu, donc qui contestaient la validité du testament. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a parfois des actes qui sont à la limite de la vérité, donc où on s'arrange avec la réalité des choses, quand par exemple la législation ne permet pas d'être suffisamment libre lors par exemple d'une donation ou d'un héritage. Et c'est bien le problème notamment des ecclésiastiques qui ont un rapport avec l'argent un peu difficile, donc il est malvenu évidemment qu'un ecclésiastique touche une somme d'argent sous forme de donation, etc. Donc eh bien on va tout simplement détourner le problème en faisant bénéficier quelqu'un d'autre qui en fin de compte ce quelqu'un d'autre sera plus ou moins prête-nom.
Le mettra à la disposition du premier bénéficiaire.
Voilà, ça peut être le cas, et puis ça peut être tout simplement parce que on modifie ensuite un acte passé, et donc avec témoin certifié, et cet acte peut être totalement modifié parfois quelques temps après. Donc évidemment là aussi on s'est arrangé avec une première vérité, et c'est dans ce sens que bien cette vérité est relative, mais le notaire prétend qu'évidemment lui n'a pas fait de faux, et jusqu'à preuve du contraire l'administration ne considère pas que son notaire va faire des faux.
Donc je retiens de deux choses en fait: le fait que les notaires s'arrangent parfois ou contournent un petit peu la loi ou les us et coutumes, et la deuxième que certaines situations devait être un petit peu compliqué quand un contrat va succéder à un premier contrat et que les deux expriment une certaine vérité. On n'a pas encore l'histoire des documents antérieurs qui ne sont plus valables comme on le fait aujourd'hui.
Oui, oui. Alors c'est vrai que bon, les circonstances peuvent modifier un peu les faits, mais il est vrai aussi que malgré les préparations des actes, eh bien parfois on s'arrange un peu avec cette vérité. Mais c'est aussi avec cette complexité du droit où on a évidemment un droit officiel qui est le droit romain, et puis qui derrière il y a aussi la coutume, et donc la coutume qui parfois est en contradiction avec ce droit civil, et on s'arrange de temps en temps justement pour faire en sorte que les choses aillent le mieux possible, et dans ces conditions on est appelé parfois à modifier les actes.
Rappelons qu'à l'époque le notaire a une stature toute particulière dans le village, la ville, c'est quelqu'un de très important, un notable devant lequel on va passer plusieurs fois dans sa vie.
Oui, c'est le notaire, c'est l'homme savant, c'est celui qui sait écrire et qui connaît le droit. À partir de là, comme la population veut absolument avoir des actes authentifiés, eh bien c'est le personnage idéal, dès lors que c'est un personnage de proximité, donc qui est inclus dans la communauté. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour trouver un notaire. Quand on voit la carte des notaires, et notamment au 15e ou au début du 16e siècle, on s'aperçoit qu'il y en a partout, qu'il y en a 4 ou 5 fois plus qu'aujourd'hui. Donc c'est vraiment un personnage qui est très très présent et qui, évidemment, connaît absolument la situation de la famille, qui rentre dans l'intimité, donc c'est lui qui va faire le testament, c'est lui qui va faire un inventaire, c'est lui qui va passer le contrat de mariage. Donc bien, il connaît cette population jusque dans le cœur de l'oustal, comme on dirait ici. C'est quand même le personnage qui, en plus de ça, eh bien, quand il s'aperçoit que les contrats sont difficiles, va essayer de les arranger. Donc au même
un
titre
médiateur
que,
aussi.
Voilà, le médiateur, et au même titre que le curé, évidemment, il est très très présent et très très important pour les communautés d'habitants.
Évidemment, à l'époque, les maires n'existent pas. Il y a les consuls, mais ils ne sont pas, j'allais dire, aussi proches de la population que le notaire et le curé.
Oui, les consuls, bon, sont bien souvent des notables, donc ils n'ont pas ce même statut. Mais je dirais que le notaire participe à la vie justement communale, dès lors que c'est lui que l'on va chercher, notamment pour faire le cadastre, puisque c'est l'homme qui sait écrire, c'est l'homme qui connaît le droit. Donc, eh bien, c'est l'homme idéal pour un certain nombre de choses, et il va servir aussi bien de secrétaire de mairie que, évidemment, de médiateur pour la population, et d'homme, évidemment, le praticien du droit pour le passage des actes.
Les consuls ont plus un rôle, vous me disiez, d'équilibrage entre la population, le lieu et puis les seigneurs.
Oui, dans un premier temps, lorsque les consuls apparaissent, ils ont réellement un rôle politique, et petit à petit, évidemment, avec l'affirmation de la royauté, ce seront surtout des gens qui vont administrer, qui vont gérer les communes, mais qui forment toujours quand même une sorte de contre-pouvoir par rapport à des abus locaux, le petit seigneur local qui veut détourner la charte de coutume, par exemple, eh bien les consuls sont présents pour contester et éventuellement ester à Toulouse contre justement ce seigneur.
Merci Joël Berker. Je rappelle cette exposition à partir de fin juin sur les archives notariales du Tarn aux archives départementales. Merci, à bientôt.
À bientôt.